Marceau le matin.
418-971-1021, 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Un bon jeudi à tout le monde, 8h28, on est avec vous autres jusqu'à 10h. À partir de 10h, ce sera le point de max à partir de midi. Ce sera Jeff et toute son équipe, Antonin Iacarini et Pascal CV qui est de retour du Kilimanjaro.
Oui,
qui,
très hâte de lui parler, de la voir.
Qui seront là, ben oui. Puis en primeur, ben Pascal va parler de son voyage au Kilimanjaro, son expédition au Kilimanjaro dans l'open mic, parce qu'ils ont des primeurs dans l'open mic.
Ouais.
Grâce
oui.
à Max. Ben oui.
Ben oui, puis nous autres, hein, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je suis obligé. Moi, Pascal est ma co-animatrice, puis là, je suis obligé de dire, bon, ben Pascal, on va prendre cet angle-là pour ton voyage,
exact.
Parce que là, tu vas l'avoir dit dans l'open mic avant.
Exact.
La faute à Audrey Pinchot. Puis toi, t'aurais voulu lui parler, parce que Pascal a été longtemps ta co-animatrice,
oui.
Mais non, elle peut pas être disponible parce qu'il faut qu'elle soit dans l'open mic.
C'est ça. Oh. Ah, le monde de la radio, hein.
Ah,
on se mange entre nous. C'est pas ça que je voulais dire. Max, qu'est-ce que je dois savoir dans ma ville?
Le gouvernement du Québec va bel et bien aller de l'avant pour forcer les syndicats à consulter leurs membres une fois par année sur l'utilisation des cotisations syndicales. C'est la presse qui a appris que le ministre Jean Boulet ira donc de l'avant avec sa réforme du régime syndical qui inclut la notion de cotisation facultative. Les membres qui pourront voter pour exprimer leur accord ou désaccord avec l'utilisation prévue de cotisations pour l'année. Une cotisation obligatoire va rester en place pour inclure tout ce qui touche à la défense des droits des travailleurs comme le renouvellement des conventions collectives ou la formation, mais la cotisation facultative elle va inclure notamment les contestations judiciaires, les campagnes publicitaires ou l'adhésion à des mouvements sociaux. Et la traverse Québec-Lévis est complètement paralysée aujourd'hui en raison d'une grève de 24 heures des employés syndiqués de la Fédération des employés de services publics. Le service qui est suspendu depuis 5h30 ce matin le sera jusqu'à 5h30 demain. Le service qui va reprendre donc demain matin selon l'horaire régulier. Et au sport, je vous mentionne que le Canadien de Montréal reprend l'action ce soir face aux Prédateurs de Nashville au Centre Bell, alors que les Blue Jays de Toronto ont réduit l'écart à 2-1 dans leur série face aux Mariners de Seattle.
Merci, mon ami. 8h30.
L'actualité présentée par le Port de Québec. Lorsque les croisières débarquent chez nous, nos producteurs locaux montent à bord. Fruits, légumes, viande, le Port de Québec approvisionne les plus grands navires du monde.
On a l'occasion de jaser une fois de temps en temps avec Luc La Liberté, qui est chroniqueur politique américaine et ex-enseignant en histoire des États-Unis au cégep Garneau. Et ce matin, je lisais son papier qui a été écrit hier, mais je le trouvais franchement intéressant puisque c'était le retour de Barack Obama, qui est de retour malgré lui, la belle-mère du Parti démocrate, qui voulait rester, qui voulait bien faire les choses suite à ses deux mandats. Puis finalement, ben il est plus présent qu'on allait le penser. Salut Luc!
Ouais, bonjour, vous allez bien tous les trois?
Ça va très bien. Qu'est-ce que ça illustre, ça, le fait que Barack Obama revient constamment dans l'actualité avec les démocrates?
Écoute, quand tu demandes à un homme qui a terminé depuis longtemps ses deux mandats, quand tu demandes à un ancien politicien qui n'a plus de réel pouvoir, sinon une autorité morale, une autorité morale dans un contexte très, très polarisant, est-ce que c'est suffisant? Quand c'est encore à lui que tu fais appel pour sauver le match en 9e manche, en relève, c'est un peu inquiétant pour le Parti démocrate et ça indique deux choses. On nous répète depuis des années que le Parti démocrate, il y a, en anglais, on utilise l'expression « un deep bench ». Donc, en termes sportifs, on a beaucoup de bons joueurs pour la relève. Là. On a de la profondeur au sein de l'équipe. Donc, est-ce que ta relève est vraiment aussi bonne que ça quand ça chauffe et que tu dois faire appel à Barack Obama? Donc, ça pose une question sur la relève, sur un changement de génération au sein du Parti démocrate. Il faut rappeler que Joe Biden incarnait une ancienne génération de meneurs. Il a été là très, très longtemps. C'est une fin en queue de poisson, mais on oublie à quel point il a été influent au sein du parti. Nancy Pelosi, qui a déjà été la présidente ou la speaker de la Chambre des représentants, c'est elle qui, à la Chambre, tenait vraiment les élus ensemble. C'était une main de fer et pas toujours dans un gant de velours. Donc, on a un problème avec à identifier vers qui on va aller. Et ce problème-là, je pense, s'explique en partie par l'orientation du Parti démocrate. Ils se tiennent face aux républicains pour la fermeture des services gouvernementaux, là, pour le shutdown. Mais sinon, on les sent encore hésitants et partagés entre des politiciens qui se sont recentrés puis qui m'apparaissent être un petit peu plus pragmatiques. Je pense à Gavin Newsom, par exemple, en Californie, il incarne bien ça. Ou M. Pritzker, qui est le gouverneur de l'Illinois, c'en est un autre, ça, qui qui dit ou qui croit encore que le Parti démocrate doit aller vers le centre pour gagner les élections au plan national. On peut être plus à gauche dans une circonscription ou dans certains États, mais lui croit encore qu'il faut se recentrer, ce qui est traditionnellement le cas en politique américaine. Et on est partagé donc entre cette aile et le all-in à gauche, que on va vers la gauche résolument, la pédale au plancher, ce qui est incarné par des politiciens comme Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, ou encore la course pour la mairie de New York, où le meneur est quelqu'un qui est à gauche, comme on en voit rarement, chez Mamdani. Alors le Parti démocrate, je pense, est encore divisé à ce chapitre-là, puis ça handicape notre fameux deep bench, notre banc qui est aussi profond. Bien, ces gens-là, ils tardent à se mettre en évidence. Puis en politique, la notoriété, aux États-Unis surtout, la notoriété joue pour beaucoup. Il faut se faire connaître longtemps à l'avance pour espérer gagner, à moins d'être un gros nom comme Donald Trump. Quand M. Trump est arrivé sur la scène politique, qui ne connaissait pas Donald Trump? Donc, ce n'est pas tout le monde qui a cette visibilité ou cette notoriété. Donc, les démocrates peinent à se relever, à trouver une direction, puis à trouver avec qui ils vont battre finalement, ouais. Avec qui ils vont au combat.
Dans ton texte qui est disponible sur le Journal de Québec, tu parles d'une dérive autoritaire qui est à tes yeux très évidente et tu t'inquiètes pour l'intégrité du processus électoral.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, je m'inquiète pour l'intégrité du processus électoral?
Regarde, ce que l'intégrité du processus électoral, dans le texte, j'y référais entre autres pour le redécoupage partisan de la carte électorale, ce qu'on appelle le gerrymandering.
Oui.
Et là, on le joue vraiment à deux. On jouera pas les puristes. Les démocrates et les républicains ont déjà joué dans ce film-là, mais les républicains jouent plus souvent. Ils vont utiliser cette procédure-là. Faut savoir, pour expliquer rapidement, qu'aux États-Unis, l'organisation d'une élection fédérale, c'est entre les mains de chacun des États. Donc, nous ici, on va gérer ça avec Élection Canada. Aux États-Unis, donc, on laisse un grand pouvoir aux dirigeants de l'État et à la législature de l'État. Donc, le cas le plus spectaculaire cette année jusqu'à maintenant, ça a été le Texas. Le Texas a redécoupé de façon partisane sa carte électorale, puis on espérait, l'élection n'a pas eu lieu encore, on espérait gagner 5 sièges de plus. À la Chambre des représentants, ça se traduit par la possibilité de maintenir la majorité, parce que les élections de mi-mandat s'en viennent et tout ce qu'on fait là va avoir une incidence sur la majorité qui actuellement est républicaine.
Ouais. Toujours à l'avantage du parti qui est en place.
Ben oui, et la Californie a fait la même chose. Donc, quand je parlais de menace à l'intégrité, Gavin Newsom puis les démocrates en Californie ont dit « OK, on répond à 5 circonscriptions par notre propre redécoupage ». Sauf que dans le cas de la Californie, il faut passer ça par un référendum. Il faut que la population appuie. Ce sont des règles internes à l'État. Et là, on a fait appel à Barack Obama pour dire « Votez pour la proposition 50 ». C'est le nom de la proposition pour autoriser le redécoupage électoral. Mais tu vois, ça, c'est une façon de jouer avec l'intégrité du processus. Si on se met à jouer de ce découpage électoral partisan, et que ce sont les républicains qui le font surtout, donc on parle dans ce temps-là de manipulation du vote. Ça reste légal? Est-ce que c'est moral? La question, souvent, on se la pose moins quand on est en guerre, littéralement, sur le terrain pour gagner une élection. Puis on va vers le côté pragmatique. Maintenant, quand je parle de dérive autoritaire aux États-Unis, c'est le président dont la plupart des décisions se retrouvent devant les tribunaux. Par exemple, exemple très, très récent.
La garde nationale.
Ben oui, il y avait, tiens, tu vois, j'allais pas là tout de suite, mais oui, il y a la garde nationale. Il y a de dire aux militaires, en les rencontrant, vous allez vous tourner contre l'ennemi intérieur, c'est d'autres Américains. Mais tu vois, il y a un dossier récent, la Cour a dit à l'administration Trump hier, dans le cas du shutdown, de la fermeture des services gouvernementaux, vous allez arrêter de congédier des gens, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, c'est un exemple, un tout petit échantillon. Mais le président tente, depuis qu'il est en place, continuellement d'augmenter le pouvoir de la présidence américaine. Et éventuellement, la Cour suprême va avoir à statuer sur tout ça, incluant la question de la garde nationale. Mais quand on parle de dérive autoritaire, donc je ne dis pas que c'est un régime autoritaire, pas encore, mais si jamais Donald Trump devait l'emporter, on va bien au-delà des pouvoirs qu'on voulait conférer ou qu'on voulait attribuer au président américain à la naissance du pays quand on a pensé ce système-là.
Comment, Luc, tu parlais d'intégrité tout à l'heure. Est-ce que c'est rendu que ça coûte trop cher faire de la politique aux États-Unis? On n'est pas capable de développer la relève? Parce que on regarde ceux qui se présentent à la présidentielle, c'est souvent des gens très âgés. Bon exemple avec Biden et Donald Trump, qui ont des ressources financières personnelles et qui ont un réseau de contacts déjà établi. Donc, c'est dur pour un jeune candidat de 35-40 ans de dire « Hey, moi, je vais briguer la présidence des États-Unis ».
Il y a même plus que ça, Jean-François. Et j'aime bien que tu m'entraînes là parce que là, on parle plus de Trump. On parle d'un problème qui existait bien avant que Donald Trump entre en scène. C'est-à-dire que la Cour suprême a déclaré il y a quelques années qu'une entreprise, une grande compagnie, des milliardaires, on ne devait pas leur imposer de limites à leur liberté d'expression. Et dépenser, par exemple, ce qu'Elon Musk a fait, 250 millions pour faire élire quelqu'un, ça ne contrevient pas aux règles, tu ne peux pas l'empêcher de faire ça parce que tu aurais brimé la liberté d'expression d'Elon Musk. Ce que ça donne comme système, et les gens qui en ont comptent les élites aux États-Unis, ce bout-là, je le comprends parfaitement, c'est-à-dire que ça correspond à la réalité, puis c'est une frustration qui me semble on ne peut plus légitime. C'est très difficile maintenant d'avoir un parti, les gens disent, il y a tellement de polarisation qu'on devrait y aller avec un autre parti. Mm-hmm. Il va falloir, encore une fois, que les poches profondes, les bro-tech de la Silicon Valley, par exemple, là, ils sont derrière Donald Trump, ils ont déjà été derrière Barack Obama, mais on va reproduire le problème. Pour avoir une autre option politique, ça prend énormément d'argent. Donc, ça coûte une fortune. Les dernières statistiques, souvent, ça prend à un candidat plus $1 milliard pour être élu, pour développer des plateformes dans 50 États.
Et ça fait aucun sens.
Équipes. Donc, on a un système, puis ça, tu vois, c'est très drôle, parce que hier, j'avais un différend avec Pierre-Olivier Zappa, qui est notre spécialiste chez Québécois pour les questions économiques, puis il disait, les investissements vont bien, l'économie américaine est sur une lancée. Un des bémols que j'ai pour ça, c'est, oui, il y a des chiffres qui disent que ça va bien, donc rendons dans ce temps-là ses lauriers à Donald Trump, mais c'est une économie qui est faite actuellement pour les plus riches. Il y a une autre statistique dont Pierre-Olivier parlait pas, qui est l'écart de plus en plus grand. Jamais dans l'histoire des États-Unis, l'écart n'a été aussi grand, depuis qu'on a les statistiques, n'a été aussi grand entre l'Américain moyen, ou les Américains les plus démunis, et les plus riches. Donc, peut-être qu'on veut vivre dans ce système-là, mais en même temps, ce que l'histoire nous enseigne, c'est que c'est pas sain quand ton noyau du milieu est aussi petit que les écarts sont aussi grands. Donc, mais ça commence par le jeu politique. On a, par exemple, actuellement, si on revient à Donald Trump, on a le plus gros club de milliardaires jamais regroupé au sein de la Maison-Blanche. Quand on regarde ses proches, quand on regarde ses conseillers, quand on regarde le président lui-même, ce sont des milliardaires qui, entre autres, dans le shutdown, veulent des baisses de taxes, mais pour les mieux nantis aux États-Unis. Donc, on peut penser, on a prouvé le contraire pendant des années, que si les plus riches s'enrichissent avec les baisses de taxes, on va finir par faire ruisseler vers le bas les retombées. Et économiquement, ça a pas marché. Ça n'a jamais été prouvé. Donc, on va vers une vieille recette, mais on revient toujours au système américain qui est un des plus inégaux ou inégalitaires dans le monde, dans les démocraties occidentales, en tout cas.
L'argent qui gangrène la politique, Luc, c'est toujours un plaisir de t'entendre, puis au plaisir de se reparler dans les prochains jours.
Une bonne journée à vous trois, une bonne journée aux auditeurs. Bye!
Salut, Luc!
Luc Laliberté, chroniqueur politique américain et ex-enseignant en histoire des États-Unis au cégep Garneau. On va faire une courte pause dans les prochaine seconde, j'aurai le plaisir de jaser avec mon ami Steve Boutet de la NSPW qui va venir faire son tour. Juste avant, comment ça se passe sur la route?
Encore un petit peu d'attente pour l'accès à la porte nord. Petit ralentissement aussi encore sur 20 ouest entre Chemin des Îles et Taniata. Sinon, Capitale Ouest encore bien au rouge entre Bourg-Royal et Laurentienne. Et Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf toujours au rouge. Sans oublier de vous rappeler cette grève qui fait qu'il n'y a pas de traversier aujourd'hui.
Mais ça, ils sont souvent à grève, les traversiers.
Et souvent, puis là même que quand c'est pas un des groupes, ben là, c'est un autre ou un autre.
Ouais, c'est vrai, ça.
Ils sont tout le temps, gars.
Qui donne ça au privé?
Oui.
Ce serait un bon investissement pour toi, ça, Max? À ton jeune âge.
Traversier.
Acheter deux, trois bateaux.
Max qui gère la société des traversiers.
Ah, ouais.
J'aimerais ça.
Ouais, il gère la circulation like a boss. Il serait capable de le faire, probablement. 8h43, on revient. Marceau, là.